L'atelier des médias, Julien Lebotte.
Chaque fois qu'on me parle de réalité virtuelle, je me demande ce que cela veut dire. Le réel, pour moi, c'est simple. C'est ici, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est l'expérience du quotidien, c'est l'action en train de se faire, c'est le micro que j'enregistre ou c'est l'info qui fait tout basculer dans la région. Le virtuel, c'est l'ordinateur, c'est le numérique, c'est l'internet, c'est moins tangible et on est presque à la limite du rêve ou de la fiction. Quand on dit réalité virtuelle, aujourd'hui, on parle de quelque chose d'assez concret. C'est un récit auquel on accède avec un casque, avec des lunettes, avec de la vidéo à 360 et avec des sons. Imaginez un peu ce que cela peut vouloir dire, réalité virtuelle en termes d'information. Traverser la Méditerranée sur un radeau de fortune tant qu'il est encore temps? Approcher de la ligne de front et des tirs à Sirte en Libye? Ou tenter de découvrir ce qu'un aveugle perçoit quand il nous entend, quand il marche dans la neige ou quand des enfants jouent dans un parc? La réalité virtuelle est aujourd'hui l'une des narrations les plus en vogue, tant elle incarne la promesse de l'immersion, de l'empathie avec les situations, voire d'une compréhension inédite de l'altérité. C'est en même temps une écriture balbutiante, complexe à orchestrer et pas encore accessible à tous. Cette semaine, l'Atelier des médias vous propose donc d'approcher d'un peu plus près la réalité de cette nouvelle façon de jouer avec le réel, le documentaire ou la fiction. Nous irons avec Mathias Virilli à la Gaîté Lyrique pour tenter de faire l'expérience de la cécité avec Notes on Blindness, un projet de réalité virtuelle prolongeant un documentaire qui sera diffusé sur Arte. Nous recevrons également trois pionniers du journalisme qui prend tout son sens à 360 degrés en seconde partie d'émission et nous verrons qu'il est tout sauf évident de réussir un bon reportage en réalité virtuelle. Mais tout de suite, nous partons en Afrique du Sud pour parler du Digital Lab Africa en compagnie de Frédéric Chambon, attaché audiovisuel à l'Institut français. Bonjour Frédéric.
Bonjour.
Alors, je vous appelle pour que vous nous parliez du Digital Lab Africa. Pour le dire très vite, le Digital Lab Africa a commencé comme un appel à projet pour les créateurs de productions multimédia sur l'ensemble du continent. Vous avez reçu plus de 500 candidatures qui sont réparties dans quatre catégories. Alors, je les cite, web création, musique en ligne, jeux vidéo et réalité virtuelle qui est justement notre sujet du jour dans l'atelier des médias. Alors, dites-nous tout, Frédéric Chambon, la réalité virtuelle en Afrique, combien de divisions ?
Combien de divisions ? Eh bien, pour nous, c'est 59 projets. Donc, sur un total de 522, on voit que c'est un peu minoritaire. Mais en même temps, on n'est pas surpris. Hein. C'est la catégorie la plus exigeante au niveau technique, financière et en termes de développement sur le continent par rapport aux autres, sans doute la moins avancée.
Alors, je
Donc, 59, c'est relativement peu. Mais en même temps, c'est pas mal du tout. Et on a des très bons projets dans le lot.
Je crois savoir justement qu'il y a eu une sélection des 10 projets en matière de réalité virtuelle en Afrique.
Alors oui, on a fait une présélection avec un jury, avec un comité, dont fait partie Antoine Kérol d'Occhio Studio, qui est notre référent et notre futur mentor dans le développement des projets. Et donc, on a demandé à Antoine de présélectionner avec nous une dizaine de projets. Et dans cette dizaine de projets, on a encore effectué un écrémage pour arriver à 3 finalistes qui viendront pitcher, comme on dit, présenter leur projet au Discope Johannesburg, qui sera notre plateforme de sélection des gagnants.
Donc l'enjeu pour le porteur de projet qui sera finalement sélectionné, c'est de réussir finalement à travailler selon des standards internationaux et à réussir à développer, à proprement parler, son projet.
Oui, non, l'enjeu, c'est qu'au bout du compte, à la fin de cet accompagnement, de ce soutien, le film, l'application, l'expérience VR proposée existe, passe du stade de projet à réalité, non pas virtuelle, mais bien réelle, soit distribuée, vendue, soit disponible et existe. Voilà, on veut prouver que la réalité virtuelle en Afrique, ça peut exister. On veut être cette plateforme qui fait que ça se transforme d'un projet à une réalité qui trouve son public.
Pour un micro-panorama sur les autres candidatures et les autres catégories, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quel genre de retour vous avez eu et quelle est la catégorie qui cartonne, pour ainsi dire, dans le Digital Lab Africa ?
En termes de chiffres, hein, en tout cas de projets déposés, c'est la musique en ligne, parce que c'est ce qui existe le plus. Hein. Il y a en Afrique une vraie industrie de la musique. Et en qualité, on a des choses très intéressantes, et ça c'est pas surprenant non plus, en web création et transmédia. parce que c'est relativement accessible, hein, c'est-à-dire faire une web série ou faire une proposition de contenu original sur le web. Donc ça, on a des choses très intéressantes, notamment du Nigeria. On sent qu'il y a une vraie créativité côté Nigeria. Et puis en serious game aussi, on a des choses intéressantes, notamment éducatives, parce que je pense que c'est un vrai enjeu pour l'Afrique de s'emparer du jeu vidéo comme un outil d'éducation aux sciences, à la condition féminine, aux enjeux de santé. Et on a un bon studio partenaire pour ça, CCCP, c'est un peu leur spécialité, tout ce qui est éducation à la santé, à la science. Et on a deux, trois trucs vraiment, vraiment intéressants, dans un de Côte d'Ivoire d'ailleurs, parce qu'on n'a pas beaucoup de francophones. Si on s'y attendait, des pays comme le Kenya, l'Afrique du Sud, le Ghana, sont quand même plus avancés sur tout ça. Mais on a trois, quatre projets francophones, dont deux Côte d'Ivoire qui sont intéressants.
Si nous avons des auditeurs qui ont des projets, est-ce qu'un nouvel appel à projet est prévu par le Digital Lab Africa prochainement ?
Alors prochainement non, mais l'année prochaine oui, on est sur la première édition, donc on est dans le cycle appel à projet, sélection, finale, incubation, et l'idée c'est de renouveler ce cycle et de relancer la machine avec comme point de départ un nouvel appel à projet, sans doute horizon avril-mai de l'année prochaine. Donc évidemment, on est preneur de tous les projets, de toutes les bonnes idées, et on va remettre en place le même dispositif d'accompagnement.
Frédéric Chambon, je rappelle que vous êtes attaché audiovisuel en Afrique du Sud et que toutes les informations sont à retrouver sur le site digitallabafrica.com. Je vous remercie.
Au revoir.
Faites-nous part de vos actualités médias et innovations en publiant sur le site de l'Atelier des médias, atelier.rfi.fr.
Quoi de neuf, quoi de beau cette semaine dans le radar de l'Atelier des médias ? On commence avec cette extension continue et inquiétante du domaine de la surveillance. Et c'est l'attitude de Yahoo qui, en début de semaine, est venue nous rappeler que le secret de la correspondance et le respect de la vie privée sont loin d'être un acquis pour nous tous. Pour ceux qui n'ont pas suivi l'affaire, voici l'histoire. L'agence Reuters a accusé cette semaine Yahoo d'avoir construit en 2015 un programme permettant de scanner tous les courriels de ses utilisateurs. À quelle fin ? Dans le but d'aider les services de renseignement américains en développant soi-même un système d'écoute sur mesure repérant automatiquement des mots-clés. L'entreprise américaine a bien pesé ses mots en démentant mollement les faits, mais la démission du directeur de la sécurité informatique de Yahoo, qui n'était pas au courant, n'a pas contribué à apaiser le débat. 10 ans après l'apparition de WikiLeaks, 3 ans après les révélations d'Edward Snowden, 1 an après la signature par Obama du Freedom Act, réformant théoriquement les pratiques du renseignement, et quelques mois après l'entrée en vigueur du Privacy Shield, un bouclier législatif censé encadrer les transferts et le stockage de données de citoyens européens vers les États-Unis, on se dit qu'il est urgent de poursuivre le combat en faveur du respect de la vie privée. Et l'on en vient évidemment à s'interroger sur l'usage que nous faisons tous de ces plateformes américaines que sont Google, Facebook ou Twitter. Ces plateformes ont-elles prêté main forte, en toute discrétion et en dépit des engagements des uns et des autres, aux agences de renseignement ? Sauf que, comme toujours, les choses sont plus compliquées qu'il n'y paraît, la confidentialité étant, à l'heure du web et des mégadonnées, un concept tout à fait relatif. Autrement dit, la vie privée, il faudra qu'on en reparle dans les semaines qui viennent dans l'atelier, parce qu'il est urgent de continuer d'en débattre. Extension du domaine du marché désormais avec cette annonce retentissante de Maxime Barbier de Minute Buzz. Je cite « Les articles s'est dépassé, en 2020 il n'y aura plus que des vidéos sur les plateformes ». On n'a pas le choix, nous dit le fondateur de Minute Buzz. Il nous faut suivre les usages des 18-35 ans qui ne sont plus sur le web, mais qui passent le plus clair de leur temps sur les réseaux sociaux. Il faut dire que Minute Buzz avait de plus en plus de mal à vendre de la publicité dite pré-roll sur son site. Et là, je veux parler des formats publicitaires vidéo qui s'affichent pendant quelques secondes avant le lancement précisément de cette vidéo. Et que son audience était en baisse depuis les changements apportés cet été par Facebook à son algorithme qui pénalise un peu plus les titres survendeurs. Autrement dit, Minute Buzz mise désormais beaucoup sur le contenu sponsorisé ou brand content pour les intimes et non plus sur la publicité classique. Pour dire les choses franchement, Minute Buzz, ce n'est pas vraiment notre dada à l'atelier. En revanche, ce virage stratégique en dit long sur l'avenir des sites internet financés par la publicité et sur la dépendance croissante des médias à l'égard des réseaux sociaux. Plateformiser les médias, c'est peut-être se rapprocher des millennials, mais c'est surtout continuer de voir s'éloigner les promesses initiales de l'internet en matière de neutralité des réseaux et d'indépendance des sites. Extension du domaine de la lutte cette semaine au Burkina Faso avec une nouvelle grève qui a paralysé les médias publics. Deux revendications ont été portées par les personnels grévistes. Il y a d'abord des demandes en matière d'augmentation salariale, mais aussi un appel renouvelé pour l'indépendance des journalistes dans le traitement de l'information. Ruffin Paré, qui travaille pour le quotidien d'État Sidoya, a déclaré sur RFI.fr, je cite, « Il faut que les autorités arrêtent de s'immiscer dans le traitement de l'information ». Il faut préciser qu'aucun membre du gouvernement n'a pu être joint par l'AFP pour réagir au sujet de ce mouvement. Pour mémoire, les médias publics avaient été la cible des manifestants fin 2014 après la chute de Blaise Compaoré. Certains journalistes avaient même été tabassés ou brutalisés, les studios et le matériel de télévision avaient été saccagés, provoquant l'arrêt des émissions pendant plusieurs jours. On imagine que les journalistes ont depuis lors fort à faire dans le combat qu'il faut mener pour construire des médias publics libres et indépendants au service de l'intérêt général, et on ne peut que leur souhaiter bon courage dans ce long périple vers une information libre. Je rappelle qu'à l'atelier, on aime jongler entre les sons et les tweets, donc tous les liens, toutes les références de nos brèves sont à retrouver sur le compte Twitter de l'atelier, @atelier_media.
Trions, vérifions, inventons le futur de l'information.
Comment perçoit-on les choses quand tout à coup, en raison d'une maladie ou d'un accident de la vie, on perd la vue? À quoi ressemble le monde? Que deviennent les autres? Que me montrent les sons? Mathias Virilis est confronté à cette expérience en assistant à une démonstration publique du projet de réalité virtuelle Notes on Blindness. Il en a profité pour rencontrer Arnaud Collinard, le directeur artistique de ce docu-fiction immersif.
La première fois que j'ai eu une crise de panique à cause de la cécité, c'était durant un après-midi sombre de décembre. J'avais soudain l'impression de traverser le néant. Un néant incroyablement froid et silencieux. Je n'allais nulle part et j'étais complètement seul.
Notes on Blindness, c'est l'histoire de John Hull, qui était un professeur de théologie vivant à Birmingham. John est décédé en juillet 2015 à 80 ans. Et donc John Hull est devenu aveugle à 40 ans. Et pour essayer de comprendre ce que la cécité changeait dans son rapport au monde et aux autres, il a commencé à enregistrer un journal intime sur cassette. Il y a plus de 16 heures d'enregistrement. Il a enregistré ses cassettes dans les années 80. Et deux réalisateurs anglais, Peter Middleton et James Spinney, ont commencé en fait un travail cinématographique basé au départ sur un court-métrage qui s'appelait aussi Notes on Blindness et qui a été diffusé sur le New York Times. Et ensuite, ils ont cherché des partenaires français pour coproduire un long-métrage et pour une réflexion autour d'une expérience digitale autour de ce thème. Et c'est ainsi qu'a démarré en fait la réflexion créative autour de Notes on Blindness.
J'étais sur le point d'entrer dans un long et sombre tunnel dont je ne pourrais plus jamais sortir. Je ressentais la sensation d'être enfermé et de ne pas pouvoir sortir.
Alors, le documentaire n'est pas un documentaire classique, puisqu'en fait, le film est écrit à partir des enregistrements de John Hull et aussi des enregistrements familiaux. Donc, tout ce que vous entendez dans le documentaire linéaire, qui est donc un film, provient de ses archives familiales, mais tout ce que vous voyez est rejoué par des acteurs.
Je ressentais la sensation d'une catastrophe imminente. Je voulais désespérément déchirer ces voiles noires qui m'entouraient et rejoindre le monde de lumière qui se dressait derrière.
Et quand les acteurs parlent dans ce film, en fait, ils font semblant de parler et on resynchronise les vrais enregistrements sur les mouvements des lèvres des acteurs. Et en fait, c'est cette démarche qui mélange fiction et documentaire, d'une certaine manière, qui nous a amené en fait à travailler dans cette direction de la réalité virtuelle. C'est-à-dire qu'au départ, quand on a commencé ce projet digital avec Peter Middleton et James Spinney, on était purement focalisé sur le son, en particulier parce que dans le champ de la création numérique, il y a eu très peu de choses qui ont été faites du point de vue de l'interactivité et du son. Et aussi parce que au moment où on a commencé ce projet en 2014, on venait de découvrir le podcast Serial.
I'm on exactly the same page.
Qui était absolument fantastique du point de vue du storytelling et de la manière de raconter une histoire, et on s'est dit qu'on voulait mêler les deux. Donc on a commencé en fait à travailler sur un concept de podcast interactif. On a fait des premiers prototypes, donc c'était une application qu'on téléchargeait sur son smartphone et on recréait du son spatialisé en utilisant le gyroscope de son téléphone par exemple. Et en fait, on s'est rendu compte que pour la plupart des utilisateurs voyants, le fait de se focaliser uniquement sur le son était quelque chose de très compliqué. Et on s'est dit qu'on allait passer à côté de notre sujet et surtout passer à côté du public qu'on voulait toucher avec ce projet, puisque le but de ce projet, c'est finalement de donner une meilleure compréhension aux voyants de ce que c'est que la cécité comme handicap. Et en fait, en travaillant dans cette logique-là, quand on a fait nos premiers tests utilisateurs, on s'est rendu compte donc que le public se désintéressait en fait de l'expérience parce qu'il n'y avait pas de visuel sur l'écran du téléphone. Ou en tout cas un visuel fixe. Et donc à ce moment-là, on a commencé à retravailler ce projet, toujours avec cette idée de son spatialisé, mais aussi en fait avec de l'image spatialisée, donc de l'image à 360. Donc ça a été notre premier pas dans, on va dire, la réalité virtuelle, mais uniquement à 360, pas de relief, pas de lunettes. Et ensuite, on a commencé des prototypes utilisant donc des lunettes de réalité virtuelle comme celle de Samsung ou le cardboard de Google, et on a vu que cela fonctionnait très bien parce que ça apportait une immersion beaucoup plus forte dans l'univers de John Hull.
La pluie fait ressortir les contours de ce qui nous entoure, car elle l'enveloppe d'une couverture sonore de bruits distincts, mais bien précis. Comme une nappe ininterrompue qui remplit la totalité de l'environnement sonore. Il faut dire aussi qu'il s'agit d'une certaine forme de beauté. Et la beauté repose sur la manière dont les motifs sonores s'agencent et se révèlent. Ce monde, qui est d'ordinaire voilé jusqu'à ce qu'on le touche, devient tangible par la grâce de la pluie.
C'est bon ?
Ça y est, ouais, je l'ai.
Là, vous avez un menu ?
Ouais.
Alors, vous allez bouger votre tête pour déplacer le curseur.
Ok.
Vous allez sélectionner un chapitre, celui que vous voulez.
Ok, ah non, faut pas...
Attendez, je vais
vous
prendre
votre
main.
Ok.
Et pour sélectionner le chapitre, vous appuyez juste là.
Okay.
C'est tactile, donc il n'y a pas besoin d'appuyer très fort.
Ça
là,
marche.
Normalement, c'est parti. Je vous laisse mettre le casque.
Ouais. Merci.
Tu vois tourner la tête, ça veut dire que tu regardes à droite et à gauche ce qui se passe.
Ouais, j'ai l'impression d'être dans une sorte de maison pour l'instant, avec des fenêtres. Donc là, il y a beaucoup de récipients en fait éclairés dans lesquels tombent des gouttes. Et ça fait une sorte de musique en fait avec ces gouttes qui tombent dans les récipients. Non, c'est très très beau. Hein.
Au final, cette expérience donc d'interactivité passe par l'image. Comment est-ce que vous avez construit ces images à partir du récit sonore qui a constitué la matière première de No Sound Blindness ?
Tout d'abord, quand on a monté ce projet, il fallait en fait qu'on mette en place une équipe. Donc on s'est tourné vers la société Audio Gaming, une start-up de Toulouse qui est spécialisée dans le son interactif. Ensuite, quand on a intégré ce besoin de représentation visuelle, on a travaillé avec plusieurs directeurs artistiques, Arnaud Desjardins, Fabien Togman et Béatrice Lartigue, à qui on a, à des moments différents de la production, demandé de réfléchir à quelle pouvait être la représentation, non pas de la vision d'un aveugle, puisqu'en fait, c'était pas l'objet, et puis on cherche pas à reconstituer ce que voit un aveugle, on voulait donner une compréhension de ce qu'est la perception du monde au travers du son. Et c'est John Hull qui parle de ça dans ses enregistrements. Il dit qu'il est in a world beyond sight, dans un monde au-delà de la vision. Et il parle aussi du acoustic world, du monde acoustique. Et en fait, c'est ça qu'on a essayé de représenter. Donc, on l'a représenté avec cette idée d'avoir des choses qui vont apparaître, disparaître, qui vont être très fantomatiques. Il y a très peu de couleurs, puisqu'on cherche pas à jouer sur des informations visuelles. Donc, en fait, on joue plutôt sur la lumière et sur la capacité de la lumière à apparaître, disparaître, vibrer. Par exemple, la première scène de l'expérience qui se déroule dans un parc, John Hull explique que le monde dans lequel il vit n'est lié qu'à l'activité. C'est-à-dire que ses enfants jouent à côté de lui, il les entend, ses enfants existent dans son monde acoustique, mais à partir du moment où ses enfants vont s'éloigner, ou en tout cas il ne va plus les entendre, c'est comme s'ils disparaissaient, qu'ils arrêtaient d'exister.
Notes on Blindness, un reportage de Mathias Virilli et un documentaire à retrouver sur Arte le 12 octobre, une expérience d'ores et déjà disponible pour les utilisateurs de casques en réalité virtuelle. Dans quelques instants, je vous propose de prolonger cette traversée sur la réalité virtuelle en parlant de la place de la VR, comme on dit dans les rédactions et dans le documentaire. Pour en parler, nous recevrons Olivier Clairouan du Monde.fr, Hervé Verlouz de l'agence Poulpio et Raphaël Beaugrand d'Occhio Studio. À tout de suite après le Flash.
L'atelier des médias.
La réalité virtuelle est-elle l'avenir du gentilhomme bien informé? Il suffit d'aller faire un tour sur Twitter ou sur Facebook pour voir passer régulièrement des billets laudateurs sur les vertus de la réalité virtuelle. L'immersion, nous dit-on, c'est en quelque sorte une expérience sublimée du terrain. Et la promesse de cette immersion, c'est une compréhension plus intuitive du monde. Sauf que la réalité virtuelle appliquée à la réalité bien réelle du quotidien des médias qui, comme chacun sait, n'ont plus un rond, c'est une autre histoire. Au-delà, la réalité virtuelle appliquée à nos enquêtes, à nos reportages, à ces histoires qu'on a envie de raconter en long format, ça pose beaucoup, beaucoup encore de questions. D'ailleurs, autant le dire tout de suite, je n'ai pas été convaincu par tous les projets et les récits qu'il m'a été donné de voir. Et dans le même temps, je dois dire que certains documentaires m'ont littéralement emporté. Aussi, je vous propose aujourd'hui de défricher un peu le vocabulaire de la VR, comme on l'appelle parfois pour Virtual Reality, mais surtout de rencontrer quelques-uns des pionniers du journalisme immersif. Et je commence par vous. Bonjour Raphaël Beaugrand.
Bonjour.
Alors vous êtes journaliste, vous êtes réalisateur pour Occhio Studio, qui vient de produire une vidéo 360 par exemple sur la Syrie, avec la voix off d'Arthur H pour Handicap International. Mais vous, ça fait longtemps que vous croyez à la bidouille et à l'immersion. Il fut un temps où on ne disait pas d'ailleurs immersion, on ne disait pas vidéo 360, on disait web documentaire. Et vous, en 2010, pour RFI, vous avez réalisé ça.
Je m'appelle Raphaël, je suis journaliste et le 3 mars 2010, je suis parti seul avec mon vélo pour aller à la rencontre des victimes et témoins du conflit depuis Paris jusqu'à Hiroshima. En 10 000 km, je suis allé là où la guerre et le conflit ont eu lieu, il y a quelques jours, il y a quelques mois ou il y a quelques années. Avec pour objectif 8 étapes, 8 pays marqués chacun à leur façon. Bosnie-Herzégovine, Moldavie, Ukraine, Géorgie, Azerbaïdjan, Chine, Corée et Japon. Tous ces pays et ces peuples ont été victimes de l'histoire à cause de la Seconde Guerre mondiale, de la guerre froide ou de la chute de l'Union soviétique. Je suis parti parce que je voulais entendre comment se reconstruire après la guerre, comment vivre avec l'insécurité, comment accepter les pertes et les drames de la séparation et de l'exil. En France, les cicatrices de la guerre pansent leur plaie depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Pas loin de chez nous, des esprits vivent avec le conflit, et les douleurs ont pris bien des visages. Des visages qui témoignent que la guerre ne s'arrête pas avec sa disparition des colonnes de l'actualité.
En 2010 déjà, donc vous rêviez d'immersion, Raphaël Beaugrand?
Alors en 2010, j'aurais rêvé pouvoir faire profiter aux gens l'immersion du voyage en vélo jusqu'à Hiroshima. Ça n'existait pas encore, en tout cas les moyens de captation n'existaient pas encore. Mais c'est sûr qu'en y réfléchissant aujourd'hui, je me dis que la réalité virtuelle aurait été un très bon outil pour faire vivre aux gens le voyage et le documentaire que j'ai proposé en web documentaire en 2010.
Alors depuis lors, vous travaillez pour Occhio Studio, qui ne travaille pas que pour des médias et pour cause, parce qu'il n'y a pas encore vraiment de commandes dans les médias. Mais à l'intérieur d'Occhio Studio, vous essayez de développer ce qu'on appelle Occhio Report. Qu'est-ce que c'est Occhio Report?
Alors Occhio Report, c'est le pendant journalistique de Occhio Studio, qui est une société de production de contenu en réalité virtuelle, à 360 degrés.
Alors, petit point de vocabulaire encore une fois, pourquoi distingue-t-on vidéo 360 et réalité virtuelle?
Alors la vidéo 360, c'est essentiellement celle qu'on peut trouver à destination des utilisateurs de vidéos sur ordinateur via un player comme YouTube, Dailymotion ou Facebook. Et la vidéo en réalité virtuelle, c'est une vidéo qui est pensée pour les masques de réalité virtuelle, avec parfois en plus la possibilité d'interagir dans la vidéo, au sein même de la vidéo, soit en se déplaçant, soit en ayant des manettes qui nous permettent de décider du contenu et donc d'utiliser une interactivité nouvelle dans un environnement à 360 degrés.
Alors justement, je vous propose de vous suivre dans vos pérégrinations. Et là, on part avec vous, on part en Guyane avec la Légion étrangère française.
En position. Serrez les jambes, c'est quoi ça? C'est quoi? J'ai dit, mettez le pied dans l'axe des bras, c'est là où vous avez la force. Il y a toujours des genoux par terre, c'est la merde. Il y a toujours des genoux par terre.
Ah, on remonte. Hé, chef.
chef. Il y en a qui restent couchés, c'est la merde. Debout, debout, tout le monde. Allez, debout, debout. 10, 9, 8, 7, 6,
allez, debout.
4.
Bon, il y a un problème. Vous avez pas la foi. Vous avez pas la foi. Cherchez la foi dans l'eau, rapidement. Allez, retour dans l'eau. Cherchez
allez,
la foi.
Allez, 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 rapidement, rapidement, rapidement.
Allez, la gauche, allez,
rapidement.
Alors on a entendu les légionnaires qui sont en plein stage d'aguerrissement. J'ai l'impression, Raphaël Beaugrand, qu'avec ce reportage, on a un travail qui nous aide à comprendre ce que peut être vraiment du reportage augmenté de réalité virtuelle. Il y a bien sûr la vidéo, mais il y a le son. Et là, on l'entendait vraiment, Raphaël Beaugrand.
L'importance du son est majeure. On dit parfois que c'est 50 à 60% de l'immersion quand on consulte une vidéo dans un masque de réalité virtuelle. Et ça, c'est très important. Il y a des techniques de prise de son en 360 degrés. Là, c'était stéréo, mais on augmente un petit peu le côté stéréo de la vidéo. Via des applications, on peut visionner des vidéos avec un son spatialisé. Ce qui fait que quand on tourne la tête à droite, on entend ce qui se passe à droite mieux qu'à gauche et inversement.
Et alors là, ce qu'on entendait dans cette vidéo, c'est un extrait de cette immersion auprès des légionnaires. Du point de vue de la vidéo, est-ce que c'est compliqué à construire comme récit ?
Alors, c'est pas compliqué, ça prend un peu de temps, ça s'écrit, ça se pense. Et ensuite, sur le terrain, il est important comme c'est du documentaire, c'est de la prise de vue réelle, on scénarise pas les choses, mais il est important de trouver des raccords entre un plan et un autre pour que l'histoire suive un cours et que la narration raconte une histoire fidèle à ce qui se passe sur le terrain. Donc en l'occurrence, il faut aussi beaucoup bouger et être assez réactif en fonction de ce qui se passe dans l'environnement qu'on filme.
Oui, parce que l'enjeu, c'est pas de rester planté comme ça au milieu de la jungle et de regarder les légionnaires passer autour de soi.
C'est ça, l'enjeu, c'est pas d'être là au milieu de la jungle sans qu'on ait l'impression que le réalisateur n'ait pas fait attention au spectateur. L'enjeu, c'est de construire une histoire qui mène le spectateur jusqu'à la fin de cette histoire pour qu'il comprenne ou en tout cas découvre ce que c'est qu'un stage d'aguerrissement, en l'occurrence en forêt équatoriale. C'était une expérience assez importante pour moi puisque il y a eu un gros travail d'écriture, mais sur le terrain j'étais aussi confronté à des difficultés de prise de vue, d'environnement et de faire en sorte que je restitue la réalité en construisant une histoire qui se tienne.
Et on a une disparition du journaliste. J'ai en tête, par exemple, une des séquences où on est face caméra, pour ainsi dire, même si on est à 360, on est face caméra avec un des légionnaires et vous n'êtes pas présent. Et pourtant, vous étiez là pour poser votre caméra. Comment vous avez procédé ?
Alors, on utilise des techniques. Hein. Enfin, les techniques, j'y pense quand je suis sur le terrain, mais la meilleure façon de disparaître quand on interview face caméra, entre guillemets, la personne, c'est d'être en fait derrière elle. Mais ça, c'est une petite technique à laquelle j'ai pensé sur le terrain, sur le tard. Donc en fonction de l'environnement, il y a peut-être un petit buisson dans lequel on peut se cacher et en criant nos questions. C'est des petites techniques pas très compliquées. L'essentiel étant d'être bien planqué.
Alors, on va continuer un petit peu ce chemin et je me tourne vers vous, Hervé Verlouze, vous nous faites l'amitié de venir de Belgique pour échanger. Bonjour Hervé.
Bonjour.
Alors, vous êtes journaliste vous aussi. Vous avez travaillé sur beaucoup de choses, de projets, de webdoc. Enfin, c'est un peu la même école. Mais j'ai l'impression que pour vous aussi, la réalité virtuelle, c'est presque devenu votre dada.
Oui, c'est vraiment une passion, c'est une découverte il y a quelques mois, parce que c'est vraiment tout récent. On dit que 2016 c'était l'année zéro de la VR, de la vidéo 360. Mais c'est à travers un premier projet tout simple que j'ai testé, qui s'appelle Invasion. C'est l'histoire d'un petit lapin assez fantastique. Je l'ai testé avec des lunettes. Je l'ai testé en immersion complète et ça a été une révélation. C'est devenu, j'ai compris une transformation complète de la narration, de l'écriture. Et ça m'a donné plein d'idées pour des projets journalistiques, évidemment, puisque je suis journaliste de formation.
Petit exemple concernant votre propre travail. Vous aviez produit un web documentaire qui portait sur les dérives du microcrédit au Kivu. Est-ce que ça a été fondateur pour vous dans l'envie de s'immerger, mais surtout d'embarquer avec vous, alors le lecteur, l'internaute, en tout cas la personne qui a envie de vous suivre dans ce récit?
Alors, pouvoir emmener les gens s'évader en voyage avec nous, ça semble être évident. Maintenant, la question, c'est aussi pouvoir engager. Être vraiment engager les gens dans une problématique, les faire comprendre et leur faire ressentir. Être en parfaite empathie avec le sujet pour mieux comprendre quelles sont les réalités de terrain.
Mais justement, tous les sujets ne se prêtent pas à la réalité virtuelle, non, Hervé Verlouz?
Non, je pense que tout peut être tourné en 360. Par contre, il y a la question de l'ennui qui arrive très vite. C'est que on doit regarder partout et il faut que l'histoire soit forte. Il faut que le sujet soit important parce que sinon, on a droit à regarder l'aquarium et il n'y a rien de passionnant dans les images.
Oui, justement, Raphaël Beaugrand, je me souviens d'un de vos projets, un des premiers projets où vous vous rendiez compte à quel point il était compliqué de faire respirer le récit et de faire en sorte que le spectateur ne soit pas perdu dans le récit. C'est-à-dire qu'il faut que on sache où regarder, il faut qu'on comprenne où se trouve le sens de l'histoire. Alors, comment est-ce qu'on fait pour donner du sens à de la vidéo en 360?
Alors, déjà, j'avais parlé de l'importance du storytelling, mais après, sur le terrain, il est important d'avoir des points d'intérêt et de placer sa caméra en fonction des points d'intérêt. Il ne faut pas qu'il soit à plus de 20 mètres, ces points d'intérêt. Il faut qu'il soit entre 1 et 5 mètres, si c'est des points d'intérêt vraiment majeurs à la compréhension de l'histoire. Ça, c'est une technique. Pour que le spectateur soit vraiment en immersion et sente qu'il y a un récit qu'il est en train de découvrir, qu'il sente ça. En fait, l'écueil, c'est que le spectateur ait l'impression d'être à une fête à laquelle il n'est pas invité. Donc, il faut éviter cet écueil. Il ne faut pas qu'il soit perdu au milieu d'une scène. Il faut qu'on lui parle, qu'il le ressente. Après, avec parfois des effets sonores, des effets à l'image, en faisant de la CGI, dans les transitions. Et puis ensuite, il faut faire attention au fait que on parle de field of view, de champ de vision, qui en réalité virtuelle n'est pas le même que dans un format traditionnel. Là, il n'y a pas de cadre, le cadre disparaît, mais en revanche, il y a quand même le cadre du masque de réalité virtuelle. Quand on est assis, en fonction qu'on soit sur un tabouret ou sur une chaise pivotante, le champ de vision n'est plus le même. Mais il faut faire attention à ces 94 degrés de champ de vision qui représentent le cadre, le centre de l'image, et puis les 33 degrés sur le côté qui sont confortablement visionnables, ou les 55 degrés qui sont un petit peu moins confortablement visionnables, mais ce qui change tout lorsqu'on est sur une chaise pivotante.
Voilà. À Pulpio, parce que c'est le nom de l'entreprise pour laquelle vous travaillez, Hervé Verlouz, à Pulpio, comment est-ce que vous faites quand vous réfléchissez à un projet? Est-ce que vous vous mettez en situation d'imaginer vraiment cette spatialisation du récit pour être sûr que vous êtes sur le bon axe de travail?
Alors, pour le moment, on se met dans la position de l'utilisateur. Et on ne parle même plus de téléspectateur, mais plutôt d'utilisateur. Et voir ce qu'il va le ressentir et comment il va le ressentir. Donc on travaille beaucoup sur éviter ce qu'on appelle le motion sickness, hein, le mal de mer de la VR, où on essaye de bien se rendre compte quelle va être la sensation de la personne. Est-ce qu'elle va justement au bout de la table juste participer à quelque chose qui ne l'intéresse pas vraiment? Et on va essayer vraiment de se demander, est-ce que c'est intéressant d'être là? Est-ce que je vais devoir me retourner 200 fois et avoir des mots de cou incroyables pour pouvoir regarder et comprendre l'histoire? Ou est-ce que simplement en changeant de plan, en changeant de séquence, je vais peut-être pouvoir avoir un axe de vue plus intéressant et beaucoup plus engageant?
Oui, et l'immersion, comme vous le disiez, peut avoir ses écueils. C'est-à-dire que si je mets ma caméra sur un bateau en route pour Terre Adélie, il y a fort à parier que l'internaute ou l'utilisateur aura le mal de mer, Raphaël Beaugrand.
Il y a fort à parier, en effet, que le motion sickness dans un masque de réalité virtuelle l'utilisateur soit victime de ce motion sickness, donc il faut faire attention à ça. Donc trouver des moyens différents, l'utilisation d'un drone, faire en sorte que cette motion sickness disparaisse pas à cause de cette histoire d'oreille interne qui est un peu chamboulée, puisque l'horizon de l'utilisateur change pas, en revanche l'horizon de la vidéo lui change. Donc c'est ça qui crée ce motion sickness qui donne comme un mal de mer. Donc sur un bateau, faut faire attention.
Par-delà ces conditions de tournage et cette façon de réfléchir au récit, l'une des questions qu'on se pose tous, bien entendu, par rapport à ce journalisme qui essaie de s'approprier la réalité virtuelle, c'est celle, pour ainsi dire, de son industrialisation. Et nous avons avec nous Olivier Clairouan, qui est responsable de la vidéo au Monde. Bonjour Olivier.
Bonjour.
Alors pour un média comme Le Monde, la réalité virtuelle, c'est quoi l'enjeu précisément?
En fait, on a surtout pas envie de mourir bête, quoi. On se rend compte de toutes ces nouvelles tendances qui émergent, que ce soit Snapchat, le live ou la réalité virtuelle, la vidéo en 360 degrés. Et on a envie de tester pour voir quelles applications concrètes on peut avoir sur les sujets qu'on traite au quotidien au Monde. Après, on a bien conscience aussi que c'est forcément, ça représente énormément, il y a énormément d'écueils, en fait. C'est-à-dire qu'on a du mal encore pour le moment à trouver notre public. Donc, pour l'instant, on teste de notre côté. Et si jamais on se rend compte que de toute façon c'est quelque chose qui est hors de notre portée, que ça coûte trop cher ou que ça prend trop de temps, au moins on aura la possibilité de comprendre les contraintes que rencontrent les entreprises comme Okio qui ensuite travaillent main dans la main avec les médias.
Alors au Monde, vous avez essayé de produire un reportage immersif. Je vous propose de partir au Hellfest au milieu de 6 scènes, des pogos, des riffs de guitare et des litres de bière.
Il y a beaucoup de gens pour qui le métal, c'est un mec qui hurle dans un micro avec la guitare à fond et puis la grosse batterie. C'est beaucoup plus subtil que ça, il y a beaucoup de styles. C'est comme quand on s'intéresse au jazz, il y a plein de styles différents. Et ben dans le métal, c'est pareil, c'est vraiment très varié. Il y a des choses qui sont très calmes, très psychées, d'autres qui vont être ultra violentes et méchantes. Il y a vraiment tout et son opposé. Et je pense que dans le public, ça se voit aussi. Les gens, il n'y a pas un métalleux pareil, on va dire, pas un type de métalleux, quoi. Il y en a plusieurs. Et ça a vachement évolué depuis les années 70.
Donc là, on l'entend, on est vrament en immersion au sein de ce festival. Quels ont été les retours des internautes, Olivier Clairouan ?
Ils ont été plutôt positifs. Il suffit de regarder les commentaires qu'on a eus sur notre site et certains mails qu'on a reçus. Globalement, les gens sont... Il y a des vrais amateurs de cette nouvelle techno et qui le disent et qui trouvent ça très bien qu'on expérimente. Après, on sait aussi que finalement, par rapport au temps qu'on a pu investir dans ce reportage, grosso modo, ça va avoir été 2 semaines pour 2 personnes, ce qui est quand même énorme. Bah, en termes de vues ou de, si on veut parler en termes un peu crus, de clics, c'est disproportionné en fait. On a fait 22 000 vues, je crois, sur cette vidéo.
Dans un tout autre genre, en 2015, il y a eu ce travail qui a été diffusé par Le Monde. On était en Syrie, en plein cœur précisément des combats.
Dévastée, la ville de Jisr al-Shourour est un champ de ruines. Ville fantôme, cette petite localité du nord de la Syrie a été le théâtre d'une défaite stratégique pour l'armée de Bachar el-Assad. La prise de la ville par les rebelles au printemps 2015 a ouvert la voie à la plaine de l'Oronte et à la bataille pour le contrôle de la région côtière, à quelques kilomètres de la province de Latakié, berceau du clan des Assad et bastion des Alaouites, premier soutien du régime.
Honnêtement, toute la ville a été détruite. Ici, c'est vraiment la catastrophe et vous ne voyez qu'une seule rue. Jisr al-Shourour est une grande ville et elle est détruite jusqu'à l'hôpital qui est à la sortie de la ville. C'est un vaste champ de ruines maintenant.
En termes de production, là, on est dans un mode opératoire complètement différent du projet sur le Hellfest dont on avait parlé, puisque c'est un collectif d'activistes syriens qui a pu collecter sur le terrain ces images en collaboration avec Okio Studio. Est-ce qu'on peut revenir d'abord rapidement sur la façon dont ce projet est né et dont il a été, la façon dont il a été fabriqué, Raphaël Beaugrand ?
Alors ce projet, il est né de la rencontre avec Armand Hureau et Stanislas de Livonnière du Parisien. Armand Hureau de l'Association syrienne pour les médias libres et qui travaille aussi avec l'agence Smart News Agency. En fait, ils sont venus vers moi puisque j'avais produit quelques reportages en 360 degrés en disant « Nous, on a nos caméramans sur place qui peuvent prendre des images de ce qui se passe en ce moment en Syrie. » Et tout de suite, ça a fait sens. Je trouve que pouvoir emmener l'utilisateur en Syrie sans vraiment y être et sans affronter les dangers qui existent en Syrie, c'est quand même quelque chose d'assez assez incroyable. En tout cas, à faire découvrir, moi pour moi, ça l'était.
Et Olivier Clairouan, justement, quand Le Monde s'engage en diffusant après ce genre d'image qui repose sur une prod et une façon de travailler qui est un peu particulière, quel est l'enjeu et quels sont aussi les retours des internautes ou des utilisateurs, comme les appelle Hervé Verlouz ?
Sur un événement comme la guerre en Syrie, l'avantage pour nous, il est évident, c'est que des images, on en est abreuvé constamment, tous les jours, sur les fils de, que ce soit Reuters, AFP ou autre. On en a tous les jours, les gens ne font finalement plus du tout la différence entre les différentes villes, entre savent plus du tout où on en est dans les combats. Et là, on avait vraiment la possibilité, ce que disait un peu Raphaël, de faire ressentir le terrain aux internautes. Et clairement, les retours sont extrêmement positifs.
Est-ce que ça veut dire que vous avez lancé de nouveaux projets de cette nature pour essayer de couvrir autrement des zones qui sont parfois inaccessibles ou dont la réalité dépasse l'entendement et on se dit que grâce à la réalité virtuelle, ça permet de donner quelque chose d'extrêmement fort ?
Oui, on y réfléchit. On a diffusé une autre vidéo qui a été faite, elle aussi en Syrie, par l'agence Smart News. Là, on était cette fois avec les casques blancs, donc ceux qui viennent secourir les civils et c'était sous les bombardements russes. Donc on a même une séquence où on voit carrément les bombes tombées. Donc c'était un témoignage extrêmement fort. Un de nos défis aujourd'hui, c'est qu'on aimerait réussir à raconter aussi en réalité virtuelle quelque chose qui soit peut-être moins, désolé pour le terme, spectaculaire ou en tout cas fort, mais qui soit quand même aussi ancré dans le quotidien des gens. Donc on aimerait par exemple réussir à traiter des thèmes sociaux, comme a pu le faire par exemple le Guardian quand ils ont fait leur projet sur les cellules d'isolement en prison, où là ils ont recouru complètement aux images de synthèse, mais on avait quand même quelque chose de fort et qui faisait ressentir vraiment l'isolement de ces prisonniers. Donc on aimerait réussir à faire ce genre de choses-là également.
Par-delà ces aspects, il y a aussi le type de récit qu'on apporte et de compréhension. On sait qu'en ce moment, ce qui marche très fort, c'est le motion, c'est le journalisme d'explication. Quand on se dit qu'on emmène justement l'internaute au cœur d'une zone de conflit, de combat ou dans une situation assez incroyable, qu'est-ce qu'on cherche à dire et qu'est-ce qu'on cherche à faire en tant que journaliste, Raphaël Beaugrand?
Montrer le réel. Voilà, c'est-à-dire qu'en tant que journaliste, on a envie de montrer ce qu'on a vu nous-mêmes. Je suis pas allé en Syrie, hein, je suis allé former les journalistes en Syrie, mais dans plein d'autres situations, ce que je voudrais, c'est faire sentir au spectateur, à l'utilisateur, les ressentis que j'ai eus sur le terrain, l'émotion que j'ai pu avoir, l'oppression qu'on peut ressentir quand on est au milieu d'une manifestation et que les gens sont très en colère. On a envie, en réalité, de disparaître et de permettre à tout utilisateur ou à tout téléspectateur ou à tout spectateur sur Internet d'être dans la peau du journaliste.
Hervé Verlouze, qu'est-ce que vous en pensez ?
Non, je suis tout à fait d'accord. C'est une nouvelle plateforme qui permet véritablement d'emmener les gens sur place et de faire monter, toucher en fait des sens et des sentiments qui sont complètement différents de ce qu'on a connu auparavant. Une vidéo aussi simple qu'une couverture d'un concert. Vous mettez les lunettes, vous êtes dedans, vous sentez l'adrénaline monter comme si vous y étiez. C'est quelque chose qui est complètement différent de la télé à plat, de projets où on n'a pas ce sentiment d'inclusion tellement intense.
Et comment on fait pour éviter la spectacularisation de l'information, Hervé Verlouze?
Bonne question. Je pense que là, c'est du côté c'est des questions de journalisme. Le journalisme n'a pas changé. On doit continuer à faire son métier convenablement, avec les mêmes bases, avec les mêmes notions déontologiques et une volonté de qualité. Ça n'a pas changé. On vient avec un nouveau média qui vient toucher des sensibilités différentes, qui vient gratter un petit peu des sentiments auxquels on n'avait pas l'habitude de faire appel. Mais le journalisme derrière reste le même. Et un journaliste de qualité fait la différence.
Vous me disiez tout à l'heure, Hervé Verlouze, que ça coûtait quand même assez cher parce que la post-production est lourde. Vous avez des estimations ?
En prix, c'est plutôt en temps homme, comme vous le disiez. Il faut passer du temps, c'est plusieurs jours à la minute, il faut du pouvoir de processeur, de machine, on va dire aussi. Donc il faut investir dans le hardware, dans les machines, les ordinateurs, pour pouvoir réduire ce temps de calcul. Ça prend beaucoup de temps, du coup ça demande beaucoup d'argent. Oui,
Et comment fait, par exemple, un média comme Le Monde qui doit investir à tout va sur le numérique? Comment est-ce qu'on fait quand on sait que ça coûte aussi cher à produire et que dans le même temps, il faut essayer pour voir ce qu'on peut en faire? Olivier Clairouan.
L'idée, c'est de jauger ce qu'on peut investir et ce qu'on ne peut pas investir. Clairement, par rapport au New York Times, par exemple, on est bien en dessous. On n'a pas du tout envoyé 1 million de cardboards à nos utilisateurs, même si je pense que c'est une bonne idée. Mais après, nous, on a quand même investi. On a 2 rigs. Donc, l'un rig, c'est un support sur lequel on fixe les caméras GoPro qui permettent d'enregistrer. Désolé pour la publicité. Donc on a quand même le matériel suffisant pour faire tout ça. Et on essaye de bloquer pour une ou deux personnes, des fois des créneaux, pour essayer quand même de tester au fil du temps. Et au bout d'un moment, on fera le bilan et on se dira « Ok, on arrête » ou « Ok, on continue ».
Les choses vont extrêmement vite, comme on le voit et comme on l'entend, entre les casques, les équipements, le mode de production, les financements. Quelles sont finalement les prochaines frontières, Raphaël Beaugrand ?
Il n'y en a pas de frontières, ça c'est le propre d'Internet. Les prochaines frontières de la réalité virtuelle j'en vois pas. Il faut réfléchir au sujet, c'est très important. Donc passer le cap du sujet inintéressant à faire en 360 degrés, réfléchir à un sujet qui se prête à la réalité virtuelle et en fonction de ça, enfin la frontière, ça sera la réception du public hein, quelque part. Et c'est vrai ce que disait Olivier Clairouan, pour le Monde, ils vont regarder les chiffres et puis ils vont voir si c'est rentable ou pas. Le Monde n'a pas les mêmes moyens que le New York Times, mais bon, je désespère pas. Plusieurs médias y pensent, Paris Match, Le Parisien, tous prennent un peu la voie de la vidéo en 360 degrés, parce que aussi ça parle à des générations plus jeunes, et donc ça permet d'avoir un nouveau public, un public qui sera bientôt le public principal. Donc il faut savoir s'adresser à eux avec des contenus qui leur plaisent, et ça fonctionne vraiment bien avec Facebook et YouTube, un peu moins bien YouTube que Facebook, mais ça fonctionne très bien. Je pense que c'est important et voire indispensable.
Olivier Clairouan.
Oui, enfin moi ça me rappelle un peu quand, enfin je dis ça, j'étais pas très très âgé, mais ça me rappelle quand la vidéo a vraiment démarré sur Internet, que YouTube est arrivé en 2005. Au début, on se dit tous c'est génial, il faut absolument qu'on fasse de la vidéo, mais il faut le temps en fait aussi que les pratiques se diffusent dans le public. C'est un des problèmes aussi avec la réalité virtuelle, c'est que pour le moment, les gens n'ont pas l'habitude du tout encore d'utiliser ces genres de players, ne serait-ce que sur leur ordinateur. Donc du coup, on se rend compte qu'il faut à chaque fois faire un travail pédagogique pour expliquer comment ça fonctionne, d'où ça vient, comment ça a été fait. Et je pense que pour l'instant, la seule vraie limite, elle est là, mais elle va, j'imagine, disparaître bientôt.
Il y a l'expression aussi « réalité virtuelle » qui est assez étrange, puisqu'on parle de journalisme et de travail de terrain. À quel moment est-ce qu'on va arrêter de parler de réalité virtuelle ? Raphaël Beaugrand.
Trouver un autre terme pour.
Trouver un autre terme.
Ça. Je sais pas, il y a des chercheurs qui sont sur le coup.
Sur le coup. Non, parce que c'est vrai que c'est assez étrange, puisqu'on cherche précisément à enrichir la contextualisation ou l'immersion au service à la fois du récit, de la compréhension, du réel. Olivier Clairouan, Hervé Verlouze, Raphaël Beaugrand, merci à tous les trois.
Merci à vous.
Et bonne continuation donc à tous les trois. Nous suivrons de près votre travail. Vous pourrez retrouver les liens vers les vidéos, mais aussi quelques articles de référence pour vous aider dans vos projets immersifs sur atelier.rfi.fr. N'hésitez pas à nous faire part de vos innovations, de vos découvertes sur les comptes Twitter ou Facebook de l'émission. L'Atelier des médias, un projet copiloté par Manon Mella, Mathias Virilli, Marie-Stéphanie Servos, Camille Deloche, à la réalisation Simon Decreuse, au micro Julien Lebotte. L'Atelier des médias vous dit à la semaine prochaine. Vous êtes sur RFI. Merci d'être à notre écoute.